Le silence des petits papiers, chapitre 37. Amédée appartenait à la confrérie des adeptes de l'agnole à Norbert, le bouilleur de crue. Il pouvait s'octroyer un peu de bon temps entre deux activités majeures. La première étant la période allant des premiers foins à la dernière coupe de maïs. La seconde commencerait dans quelques semaines avec la venue au monde des veaux de race limousine. Il avait récupéré des prunes dans le verger d'une voisine. En homme bien élevé, il se devait de lui donner en échange quelques litres distillés, d'autant que l'agnole était de qualité cette année. Il décida de la transvaser dans des dames jeunes, car la quantité importante attendait la répartition dans un fût en plastique. La conservation dans un tel récipient ne lui convenait guère. Aussi, s'employa-t-il à opérer délicatement au vidage du bidon. Il avait profité d'une promotion d'une grande surface pour se procurer deux bonbonnes neuves. C'est là que les choses tournèrent au vinaigre. La migration du fût vers les récipients en verre se passa de la manière la plus normale. Satisfait du travail, Amédée évacua le bidon vide, ne laissant dans la salle à manger que trois dames jeunes. Il irait livrer sa pourvoyeuse dans l'après-midi. Dans l'instant, il se mit en tête de faire un tour vers le marais. Il voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de souci pour son troupeau. Dans le lot, il y avait des génisses en gestation pour la première fois. Cela méritait une attention particulière. Il fit son inspection. Rien ne clochait. Il n'avait pas choisi d'élever de la race limousine par hasard. La rusticité de ces animaux lui permettait de dormir sur ses deux oreilles. Rares étaient les incidents. Les vaches accouchaient seules, sans besoin extérieur, contrairement à d'autres qui nécessitaient une présence quasi permanente lors des naissances. Il croisa Arsène. Bien entendu, la conversation dévia sur les péripéties de Joseph Duraz. Tonin l'avait mis au courant, mais connaissant trop bien le côté fabulateur de son ancien commis, il écouta attentivement le récit de son voisin et ami. Ce dernier, comme Jean-Christophe et Tonin, s'étonnait des fosses creusées par l'ivrogne. Il lui confia qu'il y avait certainement un bon Dieu pour les alcooliques. Joseph avait eu une chance inouïe, car l'endroit où il se trouvait, il aurait pu rester longtemps dans son trou. On l'aurait découvert raide dans sa tombe. Avec Tonin, l'histoire avait fait le tour du quartier. Chacun y allait de sa supposition, sûr de ses allégations. Il n'y avait probablement que les gendarmes qui n'avaient pas mis leur nez dans cette affaire. Les manigances de Joseph Duraz intriguaient tout le monde. Certains prétendirent qu'il voulait dissimuler un magot, d'autres qu'il préparait un sale coup. Certains affirmèrent qu'il voulait se suicider. Ça ne tenait pas la route, car à qui était destiné la deuxième excavation. En attendant son retour, Tonin s'occupait consciencieusement de la basse-cour, du chien, de la vache et des chèvres. Il n'appréciait pas beaucoup leur propriétaire, mais il ne pouvait laisser ses bêtes périr par la faute d'un vieil original imbibé du matin au soir. Cela risquait de durer un peu, car les médecins profitaient de sa fracture de la jambe pour tenter une cure de désintoxication. Joseph n'était pas d'accord. Le chirurgien lui donna le choix entre les soins ou la gangrène. Le patient manifestait un goût pour la vie. Il accepta. Le praticien avait choisi les bons mots. L'autre était vaincu. Il serait probablement absent pour un bon mois. Il y avait une semaine qu'il était à l'hôpital. Amédée et Arsène décidèrent de lui rendre une petite visite, plus par charité chrétienne que par amitié. Jean-Christophe contactait, se joignit à eux. L'homme qu'ils virent dans son lit de douleur était bien différent de celui qu'ils côtoyaient dans le quartier. Vêtu d'une blouse blanche, la jambe droite recouverte d'un plâtre en extension, rasé de près, Joseph Duraz était présentable. Amédée, sur les conseils de Jean-Christophe, avait apporté une boîte de chocolat. Il s'était rattrapé in extremis car il avait opté pour des rochers fourrés à la liqueur. Heureusement, la vendeuse lui demanda si c'était pour un enfant, car il y avait de l'alcool. Son sang ne fit qu'un tour. Il réalisa la bêtise qu'il allait commettre. il opta pour un assortiment plus classique. Joseph esquissa un sourire. Il ne s'attendait pas à voir ces trois-là. Il répondit par onomatopée à leur bonjour. Il n'était pas très loquace. Il remercia Arsène. Il rajouta « saleté de bestiole ». Chacun s'interrogea sur ces mots. Jean-Christophe se hasarda à lui demander ce qu'il voulait dire. L'autre se contenta de lui répondre « je me comprends ». Il comprit qu'il n'en tirerait rien de mieux. Il préféra laisser les deux paysans tenter de converser avec le blessé. Ils parlèrent de la pluie et du beau temps. Arsène lui posa à nouveau la question. Il essaya de savoir ce que foutait Joseph dans cette fosse. Imperturbable, il répéta une nouvelle fois « saleté de bestiole ». L'infirmière abrégea la visite. Elle venait effectuer des soins aux voisins de chambrée qui semblaient durement touchés. Elle précisa qu'elle en avait pour au moins 20 minutes. Ils saluèrent Joseph en lui promettant de revenir le voir un jour prochain. Il les salua en grommelant. Il les remerciait à sa manière. Il rajouta de donner le bonjour à Tonin. Ça voulait dire qu'il remerciait de s'occuper de ses animaux. Chacun était satisfait de sa bonne action, même si le blessé n'avait pas dit grand-chose. C'était bien de lui avoir montré de la solidarité dans l'adversité. Pendant le trajet de retour, ils parlèrent du malade. Ils convinrent qu'il paraissait en bon état. Le sevrage ne semblait pas trop le perturber, ou alors il cachait bien son jeu. Ils ne lui avaient pas rendu visite pour connaître la vérité, mais ils étaient déçus de ne pas avoir réussi à lui tirer les vers du nez. Ce dernier resta muet comme une tombe. Cette pensée fit froncer le sourcil de Jean-Christophe. Parmi les trois visiteurs, il était le seul à avoir sa petite idée sur les agissements de Joseph Duras. Il préféra garder pour lui son hypothèse. Son petit doigt lui disait qu'il était dans la bonne direction. Il suffirait de quelques recoupements pour corroborer son hypothèse. Amédée emmena ses deux comparses chez lui. Il voulait leur faire goûter sa prune. Arsène s'exclama. « Elle est parfumée, ta prune. Comment peux-tu dire ça, alors que je n'ai pas ouvert la porte? Parce qu'elle sent à 3 kilomètres à la ronde. » « C'est vrai, reprit Jean-Christophe. J'ai compris, vous vous êtes ligué contre moi. Pas du tout, mais Arsène a raison, l'odeur est prenante. » Amédée ne possédait pas un odorat aussi développé que ses deux complices. Il fut édifié lorsqu'après avoir actionné la vieille serrure et poussé lui, il prit conscience du parfum de l'agneau répandu sur le sol. Une dame Jeanne était brisée, et son contenu s'était écoulé tout d'abord sur le carrelage, puis sur le parquet du salon. « C'est pas Dieu possible » s'exclama-t-il. Les 10 litres d'eau-de-vie étalés devant eux attristèrent Amédée et Arsène. Jean-Christophe compatissait. Il ne voyait pas l'accident sous le même angle. Cela revêtait pour lui un aspect comique qui échappait totalement aux deux autres. La bonbonne devait avoir un défaut, car personne n'avait pénétré dans la pièce depuis son départ pour l'hôpital. Il alla chercher un seau et des serpillères. Chacun donna un coup de main pour éponger et absorber le liquide. Arsène voulait récupérer le breuvage. Amédée s'y opposa. Il préféra jeter les serpillères et le contenu des seaux dans le composteur. Les verres seraient à la fête. Dans la salle à manger, cela ne posa pas de souci particulier. Il n'en fut pas de même dans le salon. La prune s'était faufilée dans les jointures du parquet. Il faudrait du temps et de l'encaustique pour remplacer une odeur par une autre. Enfin, ils trinquèrent quand même à la guérison de Joseph Duras. Jean-Christophe se dit que décidément, chaque journée réservait son lot de surprises. Aujourd'hui ne dérogeait pas à la règle.